Merci beaucoup, Emmanuel, de cet accueil chaleureux. J'ai pu aussi discuter après-midi avec une équipe de collègues. Et bien sûr, comme je l'ai dit, mais je le pense avec une grande sincérité, c'est un privilège de pouvoir venir ici, mais de pouvoir aussi présenter mes travaux qui sont toujours des questions qui ne sont jamais totalement résolues. Puis ça, c'est le propre des chercheurs, mais c'est ce qui nous fait vivre. Ce que je voudrais vous partager ici, juste un petit mot, Emmanuel, en fait, dans ta présentation, mais je ne me suis pas rendu compte tout à l'heure, mais c'est pour rendre justice à la réalité. Tu as présenté la partie de ma carrière suisse, et puis avant ça, j'avais à peu près 20 années en Belgique, à l'Université de Namur. Donc, tout ce qu'elle a dit, c'était pour la partie suisse de ma carrière. J'ai eu ce privilège aussi de travailler en Belgique. Ce que je voudrais partager ce soir avec vous, c'est au fond le résultat d'un parcours. Je ne vais pas vous retracer le parcours, mais plutôt vous partager ce qu'il en résulte comme réflexion aujourd'hui. Effectivement, on va traiter de l'hybridation des dispositifs de formation, de l'utilisation et de l'usage des technologies pour l'apprentissage à travers justement l'hybridation, mais aussi surtout de l'évaluation des dispositifs de formation, des nouveaux programmes qui sont mis en œuvre aujourd'hui. Et donc, ce que je vais vous partager, je l'espère, c'est plutôt une vision et des propositions pour l'avenir, pour soutenir les nombreux projets que vous avez en France, notamment pour la réforme des cursus universitaires, mais aussi bien au-delà les projets que nous avons à l'étranger, en Suisse ou au niveau européen. Normalement, au niveau du timing, parce que c'est aussi important en Suisse, c'est classique de faire attention à ça. Donc, Emmanuel m'a dit que j'avais plus ou moins 1h10 pour la présentation orale. C'est un peu long comme format de conférence, donc on va voir si je vais tenir le coup, mais en tout cas, je vais en tout cas pas essayer de ne pas dépasser ce temps pour qu'ensuite on ait une vingtaine de minutes, je crois, ou un peu plus pour l'échange de questions. Mais justement, pour commencer, je voudrais déjà vous rendre un petit peu actif et vous poser une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps, il y a une bonne semaine, au ministère de l'enseignement supérieur français, hein, ici à Paris, où ils avaient invité les experts et les expertes qui étaient membres du jury du NCU cette année-ci. Et j'ai eu le privilège de faire partie de ces experts. Et pour préparer notre séance, on nous avait demandé d'écrivez-nous ce qu'est pour vous. Alors, ils n'avaient pas parlé de dispositif, je préfère parler de dispositif, mais ce qu'est pour vous un cursus de formation idéal. Et puis, pour commencer la conférence, j'aimerais bien que vous preniez 2-3 minutes pour vous, pour vous dire au fond, mais pour moi, si je devais définir un dispositif de formation ou un cursus de formation idéal, alors c'est vrai que c'est pour l'enseignement supérieur, mais on pourrait élargir, qu'est-ce que ça serait? Je voudrais juste que vous réfléchissiez un petit peu, parce que ensuite vous allez pouvoir, d'une certaine manière, confronter, même si ça ne va pas être, enfin, peut-être à la fin, certainement dans le débat, mais pas directement, mais confronter vos réponses à la mienne. Alors voilà, je vais vous présenter la réponse que j'ai proposée qui tient en une phrase. Et puis, c'est cette phrase qui va, au fond, être le fil rouge de ma présentation ce soir. On va la décortiquer ensemble. Je vais évidemment en profiter pour introduire un certain nombre de concepts, mais aussi pour introduire quelques éléments de mes recherches toutes récentes. Donc, pour moi, le dispositif de formation idéal est celui qui favorise une interaction constructive entre chaque étudiant, chaque étudiante, et un environnement d'apprentissage efficient, c'est-à-dire conçu de manière à soutenir un apprentissage en profondeur et porteur de sens. Donc, on va prendre chaque partie cette proposition en commençant par ce qui me paraît être le cœur de la proposition, c'est de considérer que ce qui est au centre, c'est l'interaction entre l'étudiant, l'étudiante et l'environnement d'apprentissage. Donc, ce sera la première partie, une interaction constructive. Je vais vous proposer, pour appréhender cette idée, cette manière de voir, un petit extrait de film qui date déjà de 2005, je pense, qui a été développé par l'université d'Aarhus au Danemark. Donc le son est en anglais, mais il y a un sous-titrage en français. Donc c'est 4 minutes qui vous présentent des interactions particulières entre étudiants et étudiantes et l'environnement de formation. Alors, on va exploiter bien sûr un peu cette vidéo, mais je l'ai choisi au fond pour vraiment montrer que ce qu'il s'agit de mettre au centre, c'est au centre de notre attention, ce n'est pas l'étudiant, comme on dit d'habitude, ou mettre l'élève au cœur de l'apprentissage. Non, c'est l'interaction entre l'étudiante ou l'étudiant et son environnement d'apprentissage. On va voir tout au long de cet exposé que, en fait, c'est ça qui compte et que les recherches qui ont été réalisées, celles-ci sur les approches d'apprentissage qui datent depuis de plus de 30 ans, au fond, c'est cela qu'elles ont mis en évidence. Alors, pour l'enseignement supérieur, les collègues qui sont dans la salle et qui s'intéressent au niveau scolaire, primaire et secondaire, pourront peut-être aussi voir dans quelle mesure cette centration sur l'interaction entre l'étudiant ou l'élève et son environnement sont importants. Donc c'est la manière dont l'étudiant se représente l'environnement, mais quand on parle d'environnement, ça va de l'institution, ça veut dire ici, par exemple, l'université de Rouen par rapport à une autre université ou telle faculté ou tel département, donc de l'institution, mais aussi à la classe, hein, qu'est-ce qu'on va faire dans telle classe à tel moment, ou le programme, et aussi les ressources qui sont mises à disposition, la plateforme informatique, les ouvrages, le tutorat éventuel, etc. Donc c'est la représentation que l'étudiant se fait de tout cela, de cet environnement, et la manière dont il agit et s'autorégule dans cet environnement, qui vont déterminer ses résultats d'apprentissage. Alors j'ai mis entre parenthèses les learning outcomes, parce que, au fond, c'est un vocabulaire qu'on utilise maintenant, c'est pas très joli, parce que surtout c'est pas français, les résultats d'apprentissage, mais dans le cadre de la réforme de Bologne. On va parler aussi de gains d'apprentissage, learning gains, et donc actuellement, on, dans le domaine des recherches en pédagogie universitaire, on va beaucoup s'intéresser à ça, c'est-à-dire aux outcomes, aux résultats, mais aussi aux gains qui vont concerner plutôt des compétences transversales, des compétences que les étudiants et étudiantes développent au fil des programmes de formation, de leur licence, de leur master, de leur doctorat, et que l'on va pouvoir évaluer avec un certain nombre d'instruments. C'est pour cela que je l'ai repris ici dans cette parenthèse. Alors, on va regarder ces deux termes, se représenter et agir. Donc, l'interaction entre l'environnement, entre l'étudiant et l'environnement, elle va se faire de deux façons. De manière, on va dire, subjective, comment je vois, comme étudiant, je vois, je me représente l'environnement d'apprentissage. Et puis, d'autre part, comment j'agis dans cet environnement. Alors, Évidemment, on pourrait allonger la liste des concepts qui vont être utilisés pour pouvoir traiter de ces questions-là. Et ce sont des concepts qu'on va utiliser dans nos recherches pour caractériser cette interaction entre les étudiants et l'environnement d'apprentissage. Et je vais vous parler ce soir des approches d'apprentissage, des représentations du dispositif, de la reconnaissance des fonctions d'aide à l'apprentissage et de l'orientation des buts de l'étudiant. Alors, si on fait référence au petit film que nous venons de voir avec Suzanne et Robert, en fait, c'est une illustration un petit peu caricaturale, évidemment, mais qui renvoie aux travaux réalisés sur le sujet, de deux approches qui sont contrastées, l'approche d'apprentissage en surface et l'approche d'apprentissage en profondeur. Moi, comme lorsqu'on utilise le terme d'approche, on peut se représenter le fait... Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous êtes entré dans la salle ce soir, je ne sais pas ce que vous aviez en tête, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire, je viens pourquoi ? C'est quel but ? Quel but est-ce que j'ai en venant à cette conférence ce soir ? J'ai un but personnel, éventuellement des questions, ou simplement parce qu'un collègue m'a dit ben, « viens », ou parce que je suis obligée aussi, peut-être parfois. Et ça, c'est le but. Ensuite, pour définir une approche, on va tenir compte des connaissances préalables, ce que l'étudiant, au fond, sait déjà, son bagage. Et puis aussi, ça c'est une chose, troisième chose, on va regarder la manière dont il voit la tâche, ce qu'il va faire pendant cette activité. Donc certains prennent des notes, d'autres pas, etc. Donc l'approche d'apprentissage, on va la définir par rapport à la motivation de l'étudiant, par rapport à la manière dont il voit la tâche et ce qu'il veut y faire. Et donc, dans l'approche en surface, on a plusieurs aspects. On a un étudiant, Robert, qui, lui, a un but extrinsèque, essentiellement, c'est d'obtenir un diplôme pour obtenir un bon travail plus tard, et qui va, en fait, au niveau de la signification qu'il va accorder à la tâche, il va la regarder en se demandant « mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir ?» Qu'est-ce que je dois faire pour justement passer l'examen juste à la limite? Et donc, il va être très fort guidé aussi par le juste. Juste faire ce qu'il faut, juste lire les notes avant, juste mémoriser la veille de l'examen, etc. Une autre caractéristique de l'approche en surface, c'est le fait qu'on fait très peu de relations entre les activités. Peut-être pour certains d'entre vous, quand vous êtes fatigué, on dit, j'ai l'impression d'agir comme un schizophrène, c'est-à-dire de dire bah, je fais ça ce soir, mais je ne pense pas du tout que je peux faire des liens avec ce que je vais faire demain. D'accord ? Et en fait, c'est vraiment une approche où on sépare, on compartimente au fond nos activités, sans leur donner, et c'est le troisième élément qui caractérise une approche, c'est le sens, sans leur donner réellement un sens, hein, en faisant juste ce qu'il faut. L'approche en surface. L'approche en profondeur, on l'a vu avec Suzanne, au fond, c'est juste l'inverse. Hein. C'est vouloir apprendre, c'est vouloir, au fond, comprendre, understanding. Et puis, bien sûr, à travers cela, c'est aussi donner un certain sens à la tâche. C'est intéressant, même si le professeur n'est pas bon. Hein. On a dit juste, on ne peut rien faire pour empêcher Suzanne d'apprendre, c'est un peu exagéré, mais presque, on ne peut rien faire. Et puis, les images du début, ce qu'elle fait, c'est des liens implication, les implications, les applications, des liens avec ce qu'elle sait déjà. Et donc, c'est tout l'aspect de l'approche d'apprentissage en profondeur. On verra que les travaux sur les environnements d'apprentissage, au fond, cherchent surtout, et les travaux des collègues anglophones guidés par un auteur qui s'appelle Noël Entwistle, dans le projet qui s'appelle ETL, ils ont surtout cherché à voir quelles sont les caractéristiques des programmes, des cursus, qui amènent les étudiants à adopter ce type d'approche, une approche d'apprentissage en profondeur. Mais il faut être pragmatique, on me dirait, oui, mais attention, c'est pas toujours possible. Imaginons que vous ayez une journée de 10 heures, que ceci est la 11e heure, que vous avez plein de choses à faire, vous avez encore 100 000 dans votre boîte mail pour demain, vous n'allez pas m'écouter. Vous n'allez pas m'écouter, vous allez peut-être prendre votre ordi et répondre à vos mails, d'accord ? Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que, au fond, on va adopter ce qu'on appelle une forme de stratégie pour quelque part survivre. Est-ce que c'est ce que les étudiants font aussi? C'est-à-dire, ils regardent ce que le professeur ou le programme, les examens leur demandent de faire, et ils vont changer d'approche pour simplement réagir aux contraintes. Et c'est ce qu'on appelle l'approche stratégique, c'est les personnes, au fond, quelque part, qui sont capables de changer de manière de travailler, pour faire simple, en tenant compte des contraintes. Donc les approches d'apprentissage, c'est comme des lunettes qui permettent de reconnaître ou non ce que les enseignantes et enseignants nous proposent pour apprendre. Vous voyez déjà pourquoi l'interaction étudiant-environnement est importante, parce que les étudiants, on a vu, on a un petit peu caractérisé, caricaturé deux étudiants, mais en fait, la manière dont ils vont réagir, ils vont adopter ou non une approche en profondeur ou en surface, ça ne va pas seulement dépendre que d'eux, que de leur motivation, que de leur but, mais aussi ça va dépendre de ce que les professeurs vont leur demander, et notamment vont leur faire faire pendant le cours, mais aussi leur proposer comme épreuve à la fin, donc comme examen. Je vous disais, il n'y a pas que les approches d'apprentissage pour caractériser les représentations du dispositif. Il y a aussi l'orientation des buts. Et là, en fait, c'est vraiment lié aux approches, hein. Deux types de buts qui sont fréquemment évoqués dans la littérature. Les buts de maîtrise, ça, c'est comme Suzanne, hein, où elle veut maîtriser, elle veut apprendre, elle veut appréhender et comprendre la matière, et les buts de performance, c'est-à-dire réussir l'épreuve, et caractérisé dans ce cas-ci par Robert. J'ai été trop vite, je vais remonter, voilà. Représentation du dispositif maintenant. Et là, ce sont nos travaux, on en a fait un peu quand même aussi, donc moi je n'ai pas travaillé directement sur les approches d'apprentissage ni sur l'orientation des buts, mais bien sûr on s'en sert dans nos recherches. Par contre, la représentation du dispositif, là on l'a travaillé avec des collègues dans un projet européen qui s'appelle ISUP, où on a au fond, et j'en reparlerai tout à l'heure quand on décrira les environnements d'apprentissage, surtout les dispositifs hybrides, on a construit un instrument qui nous permet en fait de caractériser les représentations que les étudiants ont des dispositifs dans lesquels ils ont, en particulier des dispositifs hybrides. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça confirme d'autres travaux qui ont été faits à propos d'autres, disons, de dispositifs plus classiques. C'est que, là je vous cite une recherche qui est en cours, c'est la recherche intense pour intelligibilité de l'enseignement supérieur. On a voulu faire une recherche qui nous donne des instruments de compréhension de ce qui se passe justement dans cette interaction étudiant-environnement. Une recherche que j'ai menée avec Claire Pelletier et Maria Ruberto, qu'on est en train de publier. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette recherche? Eh bien, c'est que on a travaillé sur 4 dispositifs de formation, 2 à l'Université de Fribourg, 2 à l'Université de Genève, en formation en sciences de l'éducation. C'était 3 dispositifs qu'on appelle le type 5, c'est-à-dire on a utilisé des métaphores. Plutôt que de dire de leur donner un numéro, on a caractérisé ces dispositifs avec des images, des métaphores. Et si le métro, qu'est-ce que c'est? Et c'est un dispositif comme dans le métro, dans lequel les étudiants peuvent choisir un parcours. Ils peuvent dire, on a un but, qui est à peu près le but commun, donc on a des objectifs de formation, des objectifs d'apprentissage plutôt. Et puis les étudiants peuvent choisir les activités, le type de thème qu'ils vont devoir, qu'ils vont traiter, quand ils vont le faire, etc. Ils ont un certain nombre de choix sur leur parcours. Ça caractérise le métro, plus un certain nombre d'éléments quant à la richesse des moyens qui sont mis à la disposition des étudiants. C'est un dispositif centré apprentissage. Et puis un type 4, il y en avait parmi les 4 dispositifs étudiés, un type 4, c'est, on l'a appelé l'équipage avec le consortium ISUP, c'est au fond le cours dans lequel étudiants et professeurs sont ensemble à faire équipe pour résoudre des problèmes, pour appréhender un certain contenu disciplinaire. Je peux vous assurer que ça existe, et d'ailleurs c'est très agréable de donner cours comme ça, mais bon, ça c'est une autre histoire, si vous posez des questions, on pourra en parler. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ces quatre dispositifs qui sont tous les quatre centrés apprentissage? C'est malgré le fait qu'ils ont l'air super bien, enfin je dirais correspondent aux dispositifs qu'on a caractérisés comme ayant des effets intéressants sur l'apprentissage des étudiants, eh bien c'est qu'il y a quand même 30% d'étudiants et étudiantes, enfin un peu moins là, qui ne reconnaissent pas le même dispositif que leur enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur enseignant leur propose quelque chose et eux, ils voient autre chose. Ils voient des dispositifs centrés enseignement. Donc, dans lesquels, au fond, c'est le professeur qui parle ou qui leur fait faire même des activités, mais ils voient pas, au fond, l'intérêt de cette activité pour supporter leur apprentissage. D'accord. Alors ceci, ça nous a étonnés parce que figurez-vous que dans la recherche ISUP qui a porté sur 200, cette partie-là sur la comparaison des dispositifs point de vue professeur-étudiant uniquement sur 60, pour la typologie on a travaillé sur 200 dispositifs, mais pour cette partie de la recherche on a travaillé sur 60 enseignements, eh bien il y avait 70% d'étudiants, vous entendez bien, 70 qui ne voyaient pas le même type, le même cours que leur enseignant. Ça a des conséquences importantes et on va essayer de comprendre pourquoi ils ne voient pas le même type, bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on continue à faire dans nos recherches. Mais par contre, pour ceux qui sont intéressés à l'évaluation de l'enseignement, c'est un point, à mon avis, qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire, si les organisateurs de la conférence font passer ensuite un questionnaire de satisfaction à la fin de cette conférence, on aura des points de vue différents, des gens satisfaits, des personnes moins satisfaites, mais on n'aura pas le même point de vue, pas seulement parce que j'aurais été plus ou moins bonne ou plus ou moins mauvaise, mais aussi parce que c'est normal qu'on n'ait pas le même point de vue, les personnes ne voient pas la même chose en fonction de leur but, en fonction de leur approche d'apprentissage, de leur connaissance antérieure, etc. Donc ça, c'est important de le savoir avant de tirer des conséquences sur l'évaluation de la qualité de l'enseignement avec des questionnaires de satisfaction. On continue sur la représentation. C'est long, mais c'est un gros bloc parce qu'on a pas mal de résultats de la recherche là-dessus. On a d'autres domaines où on en a moins, et d'ailleurs sur lesquels on doit travailler. C'est ce que j'ai appelé, pas seulement moi, mais la reconnaissance des fonctions d'aide à l'apprentissage. C'est un travail qui a été réalisé par Dominique Lagasse, qui est professeur en Belgique, à l'Institut des hautes études commerciales de Bruxelles, HEC, et qui a fait sa thèse de doctorat en sciences d'éducation. C'est une professeure d'économie qui enseigne à des grands groupes, plus de 400 étudiants. Et Dominique a fait sa thèse justement sur, elle a essayé de comprendre, et ça vous intéressera peut-être aussi, qui sont les étudiants qui réussissent. Souvent on s'intéresse à l'échec, c'est intéressant de savoir au fond qui sont les étudiants qui réussissent. Et elle l'a, et dans quels environnements, surtout dans quel type de dispositif ces étudiants travaillent et étudient. Et elle a mis en évidence quatre fonctions d'aide à l'apprentissage qui renvoient à quatre besoins, on va dire, d'apprentissage que nous avons tous. Quatre besoins que nous avons tous, quels sont-ils? Ça renvoie à la description des besoins d'auteurs qui s'appellent Desi et Ryan. Ils en ont identifié trois. Le besoin de compétences, les besoins que vous, ce soir, peut-être, on est plus ou moins dépendant, vous reconnaissiez que je suis un minimum compétente, besoin de compétences. Deuxième besoin, un besoin d'affiliation. J'ai besoin de me sentir faire partie d'un groupe de collègues, de pairs. Donc l'étudiant fait partie d'une classe, d'un groupe. Donc besoin d'autonomie également. J'ai besoin d'un espace de choix, d'un espace de liberté. Même si je suis contrainte et obligée ce soir de venir à cette conférence, je ne sais pas si c'est le cas pour certains, mais j'ai le choix d'écouter ou pas, j'ai le choix de prendre des notes ou pas. J'ai toujours mon espace de liberté, mais bien entendu, il faudrait pouvoir l'élargir, donner plus d'autonomie aux étudiants pour qu'ils puissent justement définir leur parcours, leurs objectifs, etc. Puis vous allez me dire, la quatrième fonction d'aide, correspondant au quatrième besoin, c'est quoi? Eh bien, c'est l'intérêt. nous avons besoin de vivre des situations que nous percevons comme intéressantes. Et le professeur, l'enseignant, peut, à travers ce qu'il fait dans son cours, répondre à ce besoin d'intérêt. Et là, on a un extrait d'un entretien qui a été fait avec, évidemment, le prénom est fictif, avec un étudiant de première année qui parle d'un de ses enseignants où il dit « Il ne donne pas son cours bêtement, il nous pousse à réfléchir et on peut créer une réponse. » Et ça, c'est beau quand même. Qui soit moitié théorie, moitié nous, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'on admet que moi, étudiant, le professeur admet que l'étudiant construise la connaissance dans son cours en utilisant à la fois ce qu'il entend ou ce qu'il a lu et, ou ce qu'elle a lu et ce que la manière dont lui interprète, élabore, même de manière souvent erronée, parce que c'est ça l'apprentissage, hein. Progressivement, on essaye, on teste, on dit, et si c'était comme ça, ou est-ce que c'est différent de telle situation, on construit, et au fond, on répond ici à un besoin à la fois de compétences et certainement d'intérêt de l'étudiant. Alors vous avez vu qu'il y a Charlier, la gaz dans la citation. Pourquoi ? Eh bien parce que quand Dominique a réalisé sa thèse, je lui ai dit, mais il te manque un bout dans ta thèse de doctorat, une question à laquelle tu n'as pas répondu, tu sais laquelle? Au fond, on ne sait pas qui sont les étudiants qui reconnaissent les fonctions d'aide et qui sont les étudiants qui ne les reconnaissent pas. Et donc, on a fait une étude plus clinique, on a repris quelques entretiens, et avec Dominique qui travaille plus dans une approche clinique, on a fait une analyse en profondeur de ces entretiens pour essayer de comprendre qui sont ces étudiants qui reconnaissent les fonctions d'aide et ceux qui ne les reconnaissent pas. Puis là, il y a la référence. Ça, c'était pour les représentations. Donc, toujours pour caractériser cette interaction étudiant-environnement d'apprentissage. Maintenant, on peut aussi regarder les manières de s'auto-réguler dans le dispositif. Là, je fais référence aux travaux de mon collègue Confroy, qui définit l'autorégulation comme un ensemble de processus par lesquels les sujets activent et maintiennent des cognitions, des affects et des conduites systématiquement orientées vers l'atteinte d'un but. C'est-à-dire que nous sommes capables, si nous sommes capables d'autorégulation, de maintenir au fond notre activité cognitive et métacognitive, de contrôler nos émotions et de contrôler ce que nous faisons en situation pour atteindre un but, et vous savez comme moi que ce n'est pas tous les jours facile. Et je prends un exemple simple, aménager le lieu de travail pour empêcher les distractions. Donc un étudiant qui va être orienté vers un but d'apprentissage et d'approfondissement va se connaître lui-même. Ça peut être aussi travailler dans un café, hein, si on aime ça. Mais je veux dire, connaître la situation dans laquelle il va pouvoir bien s'investir et faire ce choix au niveau des conduites. Je ne vous présente pas de résultats de recherche là-dessus parce que malheureusement, nous n'avons pas pu encore le faire. Notre rêve, c'était de travailler à la fois rêve, oui. Enfin, on a fait les propositions. C'est souvent un rêve quand on dépose des projets pour être financé et de recueillir des données à la fois sur les conduites d'autorégulation et sur les représentations des environnements d'apprentissage. Ça, on n'a pas encore cette partie-là, mais on espère pouvoir le faire. Alors, si on avance maintenant, donc on a vu l'interaction étudiant-environnement d'apprentissage, on peut se demander aussi, mais comment est-ce qu'on peut caractériser chaque étudiant-étudiant? Puisqu'on a dit, c'est entre chaque étudiant-étudiant. Quelles sont les caractéristiques des étudiants-étudiants dont on peut tenir compte pour comprendre cet apprentissage de nos étudiants à l'université ou dans l'enseignement supérieur? Alors là, la liste, elle est extrêmement longue. On a fait une revue de la littérature, justement, avec Annie Gézégou et Confroy, qui est publiée, là aussi, elle est dans les références de cette conférence, où on a beaucoup plus de connaissances sur les caractéristiques des étudiants, et notamment sur l'effet des connaissances antérieures, sur l'effet des traits de personnalité, etc. Là, je vous mets sous les yeux, au fond, les dimensions dont on a tenu compte, nous, dans nos recherches, parce que, au fond, ce sont des éléments qui, à mon avis, sont, enfin, à notre avis, sont davantage changeables, parce que les traits de personnalité, on ne va pas forcément pouvoir agir dessus. Les connaissances préalables, oui, en tout cas sur les tests de prérequis, mais changeables ou en tout cas compréhensibles pour nous permettre d'ajuster nos dispositifs. Et première dimension, c'est l'âge, alors pas 50 ans, 60 ans, etc. Mais ce qui est important, c'est distinguer au fond les adultes en reprise d'études et les étudiants qui continuent leur parcours. Alors de plus en plus, nous avons effectivement à l'université et dans l'enseignement supérieur des personnes qui reprennent des études après avoir fait une interruption et après en étant en situation de travail. Et puis les étudiants bon, qui continuent directement après leur baccalauréat. Et là, en fait, les travaux que je vais citer juste un peu plus loin, donc je vais vous le montrer, les travaux sur l'âge montrent qu'il y a des différences entre, en ce qui concerne les approches d'apprentissage, l'orientation des buts et les stratégies d'autodirection des étudiants adultes par rapport aux jeunes étudiants. Donc ça veut dire que, d'après ces travaux-là, les étudiants adultes en reprise d'études ont plutôt tendance à avoir une approche d'apprentissage en profondeur, orientation de but donc plutôt vers la maîtrise et des stratégies d'autodirection, je dirais, plus affirmées. Ça veut dire ça, il y a un élément qu'on pourra relier, mais là c'est plutôt des hypothèses, parce que de nouveau, nous avons voulu le tester, mais nous n'avions pas assez d'adultes dans nos groupes étudiants cette fois-là. C'est que vraisemblablement, ces adultes-là vont réagir différemment aux environnements plus ouverts. Ils vont vraisemblablement être plus adaptés à ces environnements ouverts dans lesquels on a beaucoup de choix par rapport aux projets que l'on doit réaliser de manière plus favorable que les plus jeunes étudiants. Mais ça, sont des hypothèses à tester. Alors, ce qui va aussi distinguer les étudiants, c'est leur motif d'engagement en formation. Là, je vous montre juste pour faire une évocation de la recherche intense dont j'ai parlé tout à l'heure. On ne parlera que d'elle hein, pour ne pas se mélanger par rapport à d'autres contextes de recherche. On a réalisé d'autres travaux de recherche, mais je n'ai pris des données que de cette recherche-là, où on a, par exemple, en utilisant une typologie de 8, je ne sais plus combien, 8 ou 9 types de motifs, on les a regroupés, on a pu les regrouper en faisant l'analyse statistique en deux grands types de motifs, les motifs d'engagement, donc, qui sont des motifs à long terme. C'est ce qui distingue l'orientation des buts. L'orientation des buts, elle est centrée sur un cours particulier ou sur une activité particulière. Les motifs d'engagement décrivent plutôt l'engagement de quelqu'un qui s'inscrit dans un programme, par exemple, nous on dit bachelor, mais ça va être un programme de licence ou un programme de master ou de doctorat, donc sur des formations à long terme, et on a pu regrouper au fond les motifs en lien avec l'apprentissage en appliquant les travaux de Carré qui ont été aussi repris par Connefroy et d'autres, et les motifs en lien plutôt avec la participation à l'enseignement. Et donc là, ça caractérise au fond notre public étudiant de Fribourg et de Genève. Ça faisait à peu près 50 étudiants sur les quatre dispositifs. Là, on a été, juste pour vous dire, on a été assez étonnés d'avoir un public avec des motifs d'engagement centrés sur l'apprentissage élevés et assez consistants, avec peu de dispersion au niveau de la distribution des motifs parmi les étudiants. Donc, des étudiants, on va dire, pour dire simplement, très motivés, orientés vers l'apprentissage. Et puis là, vraiment, il faudrait creuser, parce que par rapport aux travaux antérieurs, c'est assez surprenant. Donc il semble bien aussi que nos étudiants évoluent leurs motifs et leurs approches changent avec le temps. Là aussi, on n'a pas assez de travaux là-dessus, donc le chantier est ouvert. Mais ça, c'est les caractéristiques pour notre population dont je vais vous parler encore. Une dernière caractéristique pour caractériser les étudiants sur lesquels on a travaillé et que je vous invite, si vous êtes intéressé à étudier, c'est la disposition à comprendre par soi-même, disposition to understand for oneself, C'est une disposition qui a été étudiée et mise en évidence par justement l'équipe d'Entwistle qui a travaillé sur les approches d'apprentissage dont je vous parlais tout à l'heure, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres auteurs qui ont travaillé aussi sur les approches, et qui a mis en évidence, au fond, cette disposition des étudiants à vouloir comprendre par eux-mêmes et surtout à continuer à comprendre par soi-même. Et là, il y a une échelle avec 5 items. Je vous ai mis les items sous les yeux. Je ne sais pas si vous pouvez les lire au bout ou à l'écran. J'ai l'habitude de chercher à comprendre par moi-même le sens de ce que je dois apprendre. En général, je mets beaucoup d'efforts dans mes études. Et la dernière, pour ne pas vous lire tout, pour donner du sens à de nouvelles idées, je les mets souvent en lien avec la pratique ou avec des contextes réels. Donc c'est, je dirais, une disposition évidemment très intéressante quand on est doté, mais surtout qu'on... Moi, je fais l'hypothèse, c'est pour ça que je prends d'ailleurs cette variable-là pour caractériser les étudiants au début d'une étude longitudinale, donc une étude qui se fait sur plusieurs mois, parce que je fais l'hypothèse que certains environnements d'apprentissage peuvent aider à faire évoluer cette disposition et la faire grandir. Et bien entendu, c'est ce qu'on souhaite pour nos étudiantes et nos étudiants, c'est qu'ils développent cette disposition à comprendre par soi-même, parce qu'ils en auront bien besoin pour leur avenir. Donc ça, c'est quelques, mais je vous assure, la liste est bien plus longue pour caractériser les étudiants, mais bien entendu, on est obligé de faire des choix. Alors maintenant, on passe aux environnements d'apprentissage efficients. Vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on sait quelque chose sur quelles sont les caractéristiques de ces environnements efficients, c'est-à-dire des environnements qui vont nous permettre d'atteindre un apprentissage en profondeur et porteur de sens, si on se rappelle de la phrase du début, et qui sont aussi pas trop coûteux, enfin qui sont, efficients. Alors, juste pour évoquer, je n'ai pas pris des illustrations pour éviter les problèmes avec les droits d'auteur. Je me suis dit que vous pourriez très bien les trouver sur Internet. Mais il y a, ça je l'ai fait moi-même, la classe inversée, hein, cette idée de dire, avant de venir à cette conférence, on aurait pu lire un texte et puis ne faire que des questions-réponses. Juste pour la boutade, quand j'avais 18 ans, en première année de candidature à ce moment-là, on l'appelait les bachelors à l'Université de Liège, c'était déjà une classe inversée en histoire de l'éducation. Et quand on arrivait au premier cours, le professeur nous a demandé, il nous avait fait acheter un livre, et on était censé lire le premier chapitre, et puis on était quand même bien plus nombreux encore que ce soir. Et puis il a dit, est-ce que vous avez des questions? C'était Arnould Claus. Évidemment, les étudiants, très surpris, n'avaient pas de questions. Alors, il a fermé son livre et il est parti. Et je vous assure qu'au cours suivant, il y avait pas mal de questions. C'était déjà la classe inversée. Et si vous savez deviner mon âge, vous imaginerez bien que c'est il y a très, très, très longtemps. Donc, l'idée de la classe inversée n'est pas nouvelle, mais c'est l'idée de faire travailler les étudiants avant de venir dans l'auditoire. Maintenant, aujourd'hui, on va utiliser aussi des technologies pour supporter ce travail à distance. J'ai noté le cours mandat parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose que je fais. Donc, c'est un cours dans lequel les étudiants, au niveau master, font des mandats réels pour les entreprises et donc mettent en œuvre leurs compétences qu'on essaie de développer ensemble dans ce cours de master. L'apprentissage par problème, on pourrait faire la liste. Et puis, je vous ai mis aussi le bandeau du site iSUP que vous trouverez facilement si vous allez sur Google, où vous avez la présentation des résultats de la recherche sur les dispositifs hybrides dont je vais vous parler encore un petit peu. Mais si je fais référence à d'autres travaux que les nôtres, Entwistle et ses collaborateurs ont identifié un certain nombre de conditions, d'éléments qui caractérisent le design pédagogique de ces environnements qui soutiennent un apprentissage en profondeur. Alors, c'est une traduction, une adaptation que moi j'ai faite, donc vous pouvez aussi retourner bien entendu à la source. Dans les références, il y a le dernier ouvrage de Noël Entwistle qu'il y a publié au mois de mai 2018, dans lequel vous pourrez retrouver aussi ces éléments. Et donc, la première chose, c'est d'offrir aux étudiants l'occasion de choisir des activités, des modules. Alors, le choix, il peut être plus ou moins limité. On verra que l'ouverture des dispositifs, la liberté de choix, elle va pouvoir évoluer entre, par exemple, la licence et le master. On va sans doute offrir plus ou moins de choix parce que pour certains étudiants, trop de choix, c'est aussi mauvais. Hein, donc ça dépend de leurs compétences en autorégulation, justement. Deuxièmement, orienter le parcours de formation en fonction des projets des étudiants. Je disais à une collègue tout à l'heure que, alors c'est pas pour me montrer un exemple, mais parce qu'on l'a montré aussi dans d'autres travaux, notamment avec Jean Nizet et Denise Van Damme sur le voyage au pays de la formation des adultes. Au fond, c'est quelque chose que je fais, mais je conseille aussi, c'est de recevoir les étudiants. Alors, quand il y a des grands nombres, ça va être les conseillers pédagogiques qui font. Si vous avez peu d'étudiants, bah, vous, comme enseignant, de les recevoir vous-même avant un programme, pas forcément, évidemment, avant chaque cours, mais avant un programme pour les orienter. Expliciter le parcours proposé, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce parcours. Adapter la charge de travail aux contraintes vécues par les étudiants, ça veut dire mettre de la flexibilité dans le dispositif et dans le timing. Offrir une variété de ressources matérielles ou humaines et ou permettre de les reconnaître autour de soi. Alors ça, on constate souvent que nous-mêmes, mais aussi nos étudiants, ne reconnaissent pas les ressources qui sont autour d'eux. On le voit, je vous rappelle, avec les fonctions d'aide ou avec les dispositifs, ils ne voient pas. Le dispositif ne voit pas ce qu'on peut leur donner comme ressources pour approfondir, pour revoir certaines connaissances qu'ils ne maîtrisent pas, etc. Donc on peut aussi les aider à reconnaître ces ressources. C'est aussi une aide pour éviter les différences culturelles. Certains dont les parents ont déjà fait des études, ne vous tracassez pas, leurs parents leur apprendront comment reconnaître ces ressources. Pour les autres, ils ne les connaissent pas, ils ne connaissent pas toujours les codes, et donc c'est important de les aider dans ce sens-là. Donner des feedbacks rapides et précis, bon, c'est classique, mais c'est un des défauts les plus grands de l'université, c'est de donner des mauvais feedbacks de l'évaluation à l'université et dans l'enseignement supérieur. Rapide, précis, constructif. Proposer des tâches intellectuellement stimulantes, authentiques, proches de la pratique professionnelle. Et là, évidemment, ça dépendra de notre créativité. Présenter clairement l'articulation entre objectifs, méthode et évaluation. Ça, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'assez connu, le constructive alignment, l'alignement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est l'alignement entre les objectifs de formation, d'apprentissage, ce que l'on fait dans les programmes, dans les cours et l'évaluation, comment on fait les examens pour qu'il y ait une cohérence entre ces trois éléments. Et puis, centrer l'évaluation sur la compréhension, la résolution de problèmes, la synthèse ou la création personnelle. Si vous vous rappelez, par rapport aux approches d'apprentissage, si on demande aux étudiants une activité de pure mémorisation, ben forcément, ils vont adopter plutôt une approche en surface, pas forcément être centrée sur la compréhension, sur l'apprentissage. Dernière caractéristique, utiliser le groupe de travail en support, encourager les étudiants à discuter de leurs propres valeurs, buts et intentions. Utiliser les technologies comme environnement d'apprentissage et de collaboration. Alors là, évidemment, il y a un ensemble de possibilités à travers l'utilisation des plateformes d'enseignement à distance que nous avons aujourd'hui. Offrir des espaces d'explicitation des choix possibles, des espaces de communication et de collaboration. Donc ça se fait à travers les plateformes, mais ça se fait aussi en présence. Utiliser les outils de ressources de différents types, débats, projets, études de cas, recherches, des outils de support au travail de groupe, comme les forums, les groupes de discussion, les wikis pour construire des projets en commun, des outils de planification des projets, de support à la participation des étudiants, la présence des outils de présence à distance, de communication informelle, des outils de support à la réflexivité comme les carnets de bord ou les portfolios. Donc là, il y a vraiment toute une série. Et puis susciter des moments d'échange et d'évaluation à propos du dispositif et des apprentissages suscités. Donc ça fait toute une série de choses que l'on peut faire. Évidemment, dans un seul groupe, un seul cours, on n'arrive pas toujours à tout développer, mais on peut reprendre certains éléments qui vont soutenir l'approche d'apprentissage en profondeur. Nous avons réalisé nos travaux dans la recherche ISUP un peu de manière parallèle. Évidemment, on avait connaissance de ces travaux dès nuit seule, mais on est parti des dispositifs hybrides. Je l'ai raconté tout à l'heure, l'origine de nos travaux avec Daniel Peraya et Nathalie Descrever. en se disant que nous avions réalisé beaucoup d'études de cas sur des dispositifs de formation innovants, dans lesquels, effectivement, à la fois au TECFA à Genève, qui est un dispositif largement à distance, les étudiants font des regroupements, puis sinon, ils travaillent à distance sur des projets, d'ailleurs, de développement en ingénierie pédagogique, et puis moi, mon dispositif de formation en enseignement supérieur, qui existe depuis plus de 15 ans, ou les dispositifs que j'ai réalisés en Belgique aussi, le dispositif LearnNet, etc. Nous avions beaucoup d'études de cas, puis nous sommes rendus compte que ces dispositifs hybrides qui articulent présence et distance, donc des activités des étudiants en présence dans des séances de regroupement et des activités à distance avec des projets collaboratifs déjà il y a plus de 20 ans ou des projets personnels ou évidemment des choses plus classiques comme des lectures, des préparations de rapports, etc. ou des stages, eh bien ces dispositifs avaient 5 éléments innovants qui les permettaient de les caractériser. Ces 5 éléments, c'est quoi ? C'est la manière dont on articule les activités en présence à distance, c'est la manière dont on utilise les médias, médiatisation, c'est la manière dont l'enseignant envisage cette fameuse interaction entre étudiants et environnement, on a appelé les formes de médiation. Donc on peut supporter une médiation cognitive pour construire des connaissances, une médiation réflexive pour réfléchir sur soi et sur ses projets, une médiation relationnelle pour travailler sur la relation avec les pairs, sur l'affiliation, une médiation pragmatique pour travailler sur la réalisation des projets, donc médiation, et puis l'accompagnement humain, la manière dont on met en œuvre un tutorat, ou si on a un prof tout seul, on peut aussi faire du tutorat, si on a des tuteurs, tant mieux, mais de la manière dont on fait cet accompagnement de construction de connaissances, méthodologique, comment on aide les étudiants dans leur manière d'apprendre, et parfois, c'est aussi utile socio-affectif pour les personnes qui risqueraient de perdre leur motivation en cours de route. Dernière caractéristique, l'ouverture des dispositifs, c'est-à-dire la liberté de choix des étudiants, mais aussi l'ouverture à des ressources externes. Et à partir de ces 5 dimensions qu'on avait définies dans une définition qui a été publiée en 2006, on a travaillé de manière inductive sur ces 200 dispositifs et à travers un questionnaire assez long, on a fait des analyses factorielles, des analyses en cluster, notamment donc avec nos collègues de l'Université de Luxembourg, l'Université de Lyon, l'Université de Rennes, pour ne pas citer, l'Université de Louvain. Eh bien, on a mis en évidence cette typologie où, au fond, on a identifié 14 facteurs. Donc, vous voyez sur la DIA, simplement pour évoquer deux types, le type 2 et le type 6, qui font partie, le type 2 des dispositifs centrés enseignement. C'est un dispositif qui est centré sur l'enseignement et sur la mise à disposition de ressources multimédia qui caractérisait souvent les dispositifs offerts en sciences, formation des futurs dentistes ou des médecins, et les dispositifs de type 6, ouverts, donc beaucoup de liberté de choix, centrés sur l'apprentissage, au fond, toutes les dimensions, donc les 14 dimensions mises en évidence sont à fond, on va dire presque, c'est comme si on était avec la pédale sur l'accélérateur et on voit l'aiguille qui va à fond. Alors je vais vous montrer quand même ces différents types et puis ensuite les 14 dimensions. Donc vous avez le type 1 qui est centré sur l'enseignement aussi, qui est caractérisé au fond simplement par la médiatisation de ressources textuelles. Alors c'est le texte, c'est le PowerPoint avec du texte, c'est l'exposé de l'enseignant, donc c'est la scène, le théâtre, l'écran avec dont je viens d'en parler, le type 2, le type 3, le gîte, qui au fond est un peu à l'intermédiaire avec des dispositifs centrés sur l'apprentissage, mais qui est toujours centré sur l'enseignement, mais on intègre des ressources, on fait venir des experts extérieurs, etc., mais on ouvre un peu les portes, c'est pour ça qu'on a appelé de gîte, hein. Vous avez l'habitude des gîtes de montagne, ça c'est d'ailleurs ce qui fait le charme de la Suisse, quoique maintenant ils sont de plus en plus fermés, mais vous trouvez la clé sous le paillasson, enfin je vous le dis, ou sous le seuil de pierre, vous trouvez quand même la clé et vous pouvez rentrer, donc ce qui veut dire que c'est un espace relativement fermé, mais quand même ouvert, où on peut venir se reposer ou se retrouver. Alors, quand on arrive vers les types centrés sur l'apprentissage, bien, on a l'équipage, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le métro aussi, et puis l'écosystème centré apprentissage et caractérisé par l'exploitation donc, de ce grand nombre de ressources. Et donc, il y a un type 7 qu'on n'a pas réussi à caractériser, des dispositifs inclassables. La recherche permettra sans doute de continuer le travail là-dessus. Vous voyez les 14 dimensions. Donc, participation active en présence, participation active à distance, outils d'aide à l'apprentissage, outils de gestion de communication d'interaction, ressources sous forme multimédia, donc sa mise à disposition. Travaux sous forme multimédia, ça veut dire qu'on demande aux étudiants de faire des travaux aussi eux-mêmes sous forme multimédia. Donc pas seulement du texte, mais aussi produire un blog, produire une petite vidéo, un graphisme, etc. Les outils synchrones, pas seulement asynchrones, donc synchrones qui se passent en même temps, hein, de communication et de collaboration. On donne aussi la possibilité aux étudiants de commenter et d'annoter le travaux des autres, ça c'est très important. Dans la médiation, la présence d'objectifs réflexifs et relationnels et l'accompagnement méthodologique au niveau de l'accompagnement et l'accompagnement métacognitif, c'est-à-dire on aide les étudiants à réfléchir sur leur manière d'apprendre. L'accompagnement aussi par les autres étudiants, la liberté de choix, j'en ai parlé, et le recours aux ressources et acteurs externes. Vous voyez, l'écosystème, il va à tout, presque à fond, sur toutes les dimensions. On arrive presque au bout. Un apprentissage en profondeur et porteur de sens, donc c'est la fin de la définition. Pour quels résultats ? Comment est-ce qu'on va définir cet apprentissage ? Chose qui est vraiment difficile, une des choses les plus difficiles à faire en recherche. Parce que si vous vous fiez aux résultats d'examen, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que d'un prof à l'autre, d'un professeur à l'autre, d'un programme à l'autre, d'une université à l'autre, on n'utilise pas les mêmes échelles d'évaluation, on n'utilise pas les mêmes critères, on n'utilise pas les mêmes référentiels, et donc vous ne pouvez pas pouvoir faire de comparaison. Vous pouvez éventuellement adopter l'approche pré-test, post-test pour mesurer ce qu'on appelle le gain, hein, en faisant un calcul des gains potentiels par rapport aux gains réels. C'est ce que certaines recherches menées par l'OCDE à ELO, qui comparent les dispositifs de formation au niveau international, utilisent, hein, les approches pré-test, post-test. On peut aussi, parce qu'on s'intéresse ici à ce qu'on peut faire évidemment comme enseignant, donc on ne va pas forcément... Enfin, moi, je fais pré-test, post-test à mes étudiants, je fais passer un pré-test pour pouvoir déterminer, pour qu'eux-mêmes sachent au fond ce qu'ils savent avant de commencer le cours, et puis refont le post-test pour eux-mêmes aussi, et ils voient leur progrès. Hein, donc, mais c'est une manière de faire. Mais d'autres manières de faire, au fond, pour caractériser cet apprentissage en profondeur et porteur de sens, au fond, il y a deux manières de faire. Il y a une manière objectivée, pré-test, post-test, où on mesure quelque part, mais il y a d'autres manières aussi objectivées, et puis subjective, c'est-à-dire... Est-ce que j'ai eu l'impression d'apprendre ? D'accord ? Donc, c'est deux manières. Alors, pour travailler de manière objective, la taxonomie SOLO, pour Structure Observed Learning Outcomes, c'est-à-dire, au fond, on définit la structure des Learning Outcomes et comment ils se caractérisent sur une petite classification, sur une petite taxonomie. On permet, au fond, de décrire les niveaux, on va dire, de traitement cognitif utilisé par l'étudiant. Alors ça peut être utilisé dans le cadre d'un examen oral ou d'un examen écrit. Je vais vous montrer un exemple issu du blog de Marcel Lebrun. Ça, c'est au niveau objectif. Toujours au niveau objectif, on peut qualifier, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres acquis d'apprentissage, qualifiés de transversaux, tel l'esprit critique ou la créativité. Et là, c'est Yann Vermoont à l'Université de Cambridge qui, avec son équipe, a développé des échelles d'évaluation que vous pourrez aussi trouver sur Internet, qu'il s'agirait de traduire. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour les projets du type du NCU pour voir l'évolution des acquis des étudiants français après un certain nombre d'années. Mais on peut aussi utiliser la disposition à comprendre par soi-même pour définir un apprentissage de qualité de manière plus objectivée, mais ça reste le dernier élément, la disposition à comprendre par soi-même, plus subjectif quand même. Pour la taxonomie solo, l'exemple issu de, du blog de Marcel Lebrun, que je vous invite à aller visiter, parce qu'il a vraiment fait un travail de présentation de nombreux travaux en pédagogie universitaire, qui permettent de diffuser ces travaux largement en langue française. Et en fait, à travers cette métaphore d'une question sur... l'astronomie, on a des caractérisations des différents niveaux de la taxonomie solo, où en fait, quand on pose une question à quelqu'un, eh bien, il peut nous répondre bah oui, dans l'espace, il y a des planètes, des satellites, la Lune, la Terre, le Soleil et parfois les comètes. Donc, au fond, il nous propose des idées ou des mots éparses où il n'y a pas vraiment de lien, d'organisation entre les mots. Puis le niveau 2, bah, des idées sont reliées entre elles, mais les liaisons sont relativement simples ou simplistes, et la signification des termes n'est pas vraiment comprise. Troisième niveau, les liaisons s'enrichissent, mais les zones de sens restent implicites, séparées, un peu compartimentées. Quatrième niveau, des éléments sont rassemblés dans les zones de sens qui sont identifiées, explicitées. Et puis le dernier niveau, les concepts sont reliés dans des modèles, dans des théories qui sont contrastées et parfois même il y a proposition d'hypothèses originales. Par exemple, la gravitation dans ce cas-ci, hein, proposition du dernier niveau, la gravitation universelle explique que des satellites tournent autour de certains objets célestes, les planètes autour du Soleil, les satellites autour de la Terre. On a découvert d'autres étoiles que le Soleil avec des planètes. Peut-être qu'on y trouvera un jour des signes de vie. Donc voilà, proposition de réponse où on est au dernier niveau de cette taxonomie solo, qui permet alors à ce moment-là de caractériser des niveaux de réponse, on va dire, presque indépendamment des disciplines. La deuxième partie, je l'aime beaucoup parce que bon, ça fait partie aussi beaucoup de mes travaux. J'ai assez, pour ceux qui connaissent mes travaux antérieurs, j'ai beaucoup travaillé sur l'approche qualitative et sur justement ce sens donné à l'expérience d'apprentissage, sur les conceptions de l'apprentissage des enseignants en formation. Donc cette facette subjective, elle m'intéresse, pas seulement pour ça, parce que je pense que c'est ça qui nous porte aussi. Elle est indissociable, bien sûr, de la face objective, parce qu'un apprentissage sans sens correspondrait tout au plus à un conditionnement comportemental. Ça existe, hein, mais voilà. Un apprentissage porteur de sens pour un individu est un apprentissage reconnu par lui ou elle comme important, ancré dans son expérience et porteur de devenir. C'est le deuxième sens de sens. Sens, ça veut dire j'accorde de la signification. J'ai compris quelque chose. Mais le sens, ça indique une direction. C'est vers où je veux aller. Et un apprentissage en profondeur porteur de sens, ça veut dire un apprentissage porteur de signification, mais aussi de devenir, d'avenir. Donc je veux le transférer, je veux utiliser, je veux en faire quelque chose, je me pose encore des questions. Ce sens, et ça c'est pour terminer, on n'est pas encore tout à fait au bout, mais presque, concerne aussi les instruments qui sont construits par l'individu à l'occasion de ces apprentissages que j'ai appelés son plus en travaillant, en reprenant les travaux de Perkins sur l'individu plus. Je vais vous l'évoquer parce que aujourd'hui, je vous l'évoquais un petit peu plus loin, attendez, parce que je crois que j'ai sauté trop vite. Ah oui, c'est encore un peu plus loin. Donc juste au niveau de cet apprentissage porteur de sens, simplement deux extraits d'un livre qu'on a publié en 2006, il y a déjà longtemps, mais qui témoigne de parcours d'étudiants à distance. Ça s'appelle Voyage au pays de la formation des adultes, qu'on a publié avec Jean Nizet et Denise Van Damme, où un étudiant à distance, adulte, dit « Étudier pour moi, c'est une nécessité, ça apporte une certaine joie. » Donc le sens, ce n'est pas non plus uniquement la signification, la direction, c'est aussi l'émotion. Il nous donne une feuille de route pour le cours, donc elle parle de son professeur ou de son tuteur. Lorsque je l'ai suivi, ça a été merveilleux. Donc c'est juste deux extraits qui sont en exergue de certains chapitres de cet ouvrage. Et puis, porteurs de sens aussi, on travaille sur les apprentissages perçus. Ça, c'est de manière quantitative. Ce sont les résultats, justement, au bout de la recherche intense, où on a travaillé sur les effets perçus de nos fameux étudiants dans notre cadre dispositif dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la motivation, sur la qualité de l'information, la qualité de l'interaction et la qualité des productions qu'ils ont fait dans ces cours. Là aussi, des niveaux assez élevés dans ces résultats. Maintenant, je viens justement à cette idée que ce sens concerne aussi l'individu plus, dont j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, c'est un article que là, j'ai publié en 2017, où j'ai repris les travaux de Perkins, qui m'ont beaucoup interrogée parce que là, jusque-là, je vous ai parlé de l'apprentissage comme d'habitude, je veux dire traditionnel. C'est presque comme j'aurais pu, presque, si on avait fait ces travaux, vous dire plus ou moins la même chose il y a 20 ans, d'accord ? Alors, pas vraiment, puisqu'on n'avait pas fait ces travaux-là, donc j'aurais pas pu vous le dire. Et puis, on travaillait moins de manière systémique, on travaillait de manière beaucoup plus analytique dans les recherches. Mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout ou pas suffisamment anticipé, bien que les travaux Perkins sont justement antérieurs de 20 ou 30 ans, mais on ne les avait pas utilisés dans l'enseignement supérieur. C'est l'idée, au fond, aussi, que quand nous n'apprenons pas que des connaissances, que des compétences, que des attitudes que nous pouvons mesurer. Nous ne développons pas que du sens, des significations, un projet d'avenir ou même un plaisir d'apprendre. Nous développons aussi notre propre environnement, c'est-à-dire les instruments que nous utilisons pour apprendre. Ils s'enrichissent. Ça veut dire que nous apprenons à utiliser des logiciels. Nous enrichissons aussi notre propre mémoire, mais qui n'est plus notre mémoire dans notre cerveau, mais la mémoire qui va se trouver sur notre téléphone intelligent, qui va se trouver dans les fichiers de notre ordinateur, dans nos répertoires, dans les images, dans les photos, dans les schémas, les dessins que nous aurons faits, dans tous les instruments que, en fonction de notre propre travail, là on a une image d'une employée des CFA, elle ne peut pas travailler sans sa dizaine d'écrans et son clavier, tout comme l'homme, entre guillemets, moderne, là, ne peut pas travailler sans ses, la femme non plus d'ailleurs, sans tous ses prolongements. Donc c'est juste pour vous inviter à vous dire, quand on va regarder l'apprentissage en profondeur porteur de sens, c'est pas seulement celui de l'individu solo, c'est aussi on va regarder comment l'environnement de l'étudiant évolue et change avec l'apprentissage. Alors, pour conclure, je reprends la phrase que je vous avais proposée tout à l'heure. Donc, le dispositif de formation idéal est celui qui favorise une interaction constructive entre chaque étudiant et étudiante et un environnement d'apprentissage efficient, c'est-à-dire conçu de manière à soutenir un apprentissage en profondeur et porteur de sens. Derrière cette définition, il y a un modèle systémique de l'apprentissage dans les dispositifs que j'invite tout le monde, tout le monde est convaincu, mais pas seulement, puisque les travaux des collègues, évidemment, au niveau international, adoptent aussi ces approches systémiques, à utiliser pour travailler sur la conception des programmes ou des dispositifs, mais aussi sur leur évaluation. Sens d'une évaluation pas seulement pour rendre des comptes, pas seulement pour faire évoluer, même si bien sûr, et améliorer ce que nous faisons, mais aussi une évaluation pour la connaissance, ça veut dire comprendre ce qui se passe dans nos environnements, dans nos cours, comprendre ce qui se passe dans l'interaction entre l'étudiant et l'environnement d'apprentissage, en tenant compte des caractéristiques des étudiants, des caractéristiques de l'environnement, des représentations et stratégies résultant de l'interaction étudiant-environnement et des effets sur l'apprentissage, en fait, c'est les éléments de la définition que vous avez vue tout à l'heure et qui était proposé le modèle dans Charlie Confroy et Jézégou en 2015. Juste pour toujours revenir sur notre petite recherche intense, eh bien, à partir d'un modèle systémique comme celui que je vous ai montré, notre but, en fait, c'est d'essayer de mettre en évidence des configurations, des patterns, c'est-à-dire de lier des caractéristiques d'étudiants avec des représentations ou des stratégies, avec des caractéristiques de l'environnement et avec des effets D'accord. Et donc ici, juste une évocation de configuration ou de pattern, pour prendre configuration le terme en français, qu'on a mis en évidence dans la recherche intense, où en fonction donc des deux groupes d'étudiants, ceux qui voyaient un environnement centré apprentissage et ceux qui voyaient des environnements centrés enseignement, on voit que, en particulier pour les étudiants qui voient un dispositif centré enseignement, eh bien, leurs motifs sont différents, sont centrés plutôt sur la participation, et ils perçoivent des effets sur l'apprentissage beaucoup moins variés, centrés uniquement sur la nature et la qualité des activités qu'ils font au cours, tandis que les étudiants qui voient un environnement centré apprentissage, comme leur enseignant. Certains ont un motif centré apprentissage, et là, ils voient des effets sur toutes les catégories d'effets que l'on a mesurés, qu'on a évalués, et puis ceux qui ont un motif centré participation voient quand même aussi plus d'effets dans leur apprentissage lorsqu'ils reconnaissent aussi cet environnement centré apprentissage. Donc on voit qu'il y a des configurations, c'est d'ordre corrélationnel, c'est juste une piste de travail que l'on voudrait bien entendu développer, qui est poursuivie par d'autres collègues au niveau international, mais qui ne travaillent pas à l'échelle des dispositifs, eux travaillent à l'échelle des institutions ou à l'échelle des programmes, donc au niveau, par exemple, licence, master, doctorat, ou institution, comparaison d'université avec des hautes écoles techniques, par exemple. Alors, piste pour l'avenir. Pour moi, mais là, bien sûr, on va en discuter, cette définition d'un dispositif idéal a des conséquences, ou devrait avoir des conséquences, sur l'accueil et l'accompagnement des étudiants, en particulier en première année. C'est parce qu'il s'agit de les connaître et de tenir compte des différences individuelles, celles qu'on a notées et peut-être d'autres, dans la conception, la mise en œuvre des programmes et des ressources à disposition et dans leur régulation, dans l'évaluation des apprentissages et des dispositifs. Et donc, je voudrais terminer là-dessus. Un cursus ou un dispositif de formation idéal est un dispositif évalué et accompagné d'une recherche qui permettent d'en comprendre les effets, parce que sans ça, on ne pourra pas, progresser dans notre connaissance de ces environnements d'apprentissage qui soutiennent un apprentissage en profondeur et porteur de sens pour nos étudiants et étudiantes. Alors, je vous remercie pour vos questions et vos réactions.